9h, 10h, c'est arrivé demain.
Avec Patrick Cohen sur Europe 1.
Bonjour Marie Dauzé.
Bonjour.
Avocate au barreau de Paris, vous défendez plusieurs femmes détenues aujourd'hui en Syrie, mais aussi un manifestant gravement blessé par une grenade à Bure il y a un an et demi. Vous avez défendu des militants assignés à résidence pendant l'état d'urgence et encore un acteur visé par une plainte pour viol. Au-delà des cas individuels, ce sont des combats qui ne vont pas de soi et peut-être voudriez-vous les mener à ce micro comme si vous aviez des juges ou des jurés à convaincre. D'abord, ce qui s'est passé hier à Paris, des violences et aussi encore un blessé grave, 4 doigts arrachés sans doute par une grenade de désencerclement, peut-être par une grenade lacrymogène instantanée, on ne sait pas bien. C'est l'arsenal policier qui pose problème ou son utilisation?
Les deux. Moi, je pense qu'il est temps d'interdire ce type de grenade. En Allemagne, par exemple, elles n'existent pas, ou en tout cas, elles ne sont pas utilisées. Hein. On se contente des canons à eau et de gaz lacrymogène.
Est-ce qu'il y a des violences lors de manifestations aussi d'un niveau aussi élevé qu'en France ces derniers mois?
Mais je le pense. Et en tout cas, c'est assez intéressant de constater, je lisais un article il n'y a pas très longtemps dans Le Monde, qui expliquait que les gendarmes utilisent ces grenades 8 fois moins que les policiers sur la même manifestation. C'est assez intéressant aussi. C'est peut-être une culture de maintien de l'ordre qu'il va falloir faire évoluer. Moi, celui que je défends, Robin, a été mutilé, son pied est mutilé à jamais, il est infirme à jamais. On a dû porter cette plainte avec constitution de partie civile sur un registre criminel jusqu'à Metz, sans que le parquet considère que il y avait lieu d'aller plus loin dans le cadre de son enquête préliminaire. C'est bien dommage. Je pense que toutes ces procédures doivent être menées et que ces policiers doivent être sanctionnés.
Où en est ce dossier, précisément?
Ouverture d'information judiciaire criminelle, puisque les faits ont été qualifiés par Robin et son conseil de violence volontaire avec arme en réunion ayant entraîné une mutilation permanente.
Alors ce sont des violences policières qui répondent à d'autres violences. Il y a sûrement de l'autre côté du poste des auditeurs citoyens exaspérés par les dégradations, vitrines, voitures, mobilier urbain cassés chaque samedi. Que diriez-vous pour les convaincre que le projet de loi anti-casseurs qui vient d'être voté par l'Assemblée nationale est selon vous dangereux ou inadapté, Marie Dauzé?
Il est dangereux, il est inadapté, il est surtout liberticide. Voilà, ce n'est pas au droit administratif de contrôler la liberté de manifester. C'est-à-dire qu'on est ici face à finalement des manifestants qui vont finir par être agréés par la préfecture. On ne peut pas mélanger les registres de cette façon-là.
C'est avec le contrôle possible d'un juge, puisque l'interdiction doit être notifiée 48 heures avant son entrée en vigueur, ce qui pourrait permettre à l'intéressé de la contester, cette interdiction, devant le juge des référés, le juge administratif.
Le juge administratif. Le juge administratif.
Oui, qui n'est pas un vrai juge.
Ce n'est pas au juge administratif de contrôler la liberté fondamentale de manifester. C'est au juge judiciaire. Il existe déjà une peine complémentaire que peut prononcer le tribunal correctionnel d'interdiction de manifester. La difficulté, elle est là. C'est que, comme le dit mon confrère à juste titre, on sanctionne des citoyens et pas des délinquants. On est dans la prédiction. On va désormais interdire à quelqu'un de manifester parce que peut-être il aurait des velléités de...
Le texte se réfère à d'éventuels précédents, hein, un comportement menaçant ou une condamnation déjà prononcée, c'est ce qui est écrit dans l'article 2, c'est la façon dont c'est rédigé. Hein.
Un comportement menaçant, ça ne veut pas dire que la personne qui va vouloir manifester ou qui décide de manifester va se rendre coupable d'infraction. Encore une fois, la difficulté, elle est que ce n'est pas au préfet de contrôler une liberté fondamentale. De toute façon, ce projet de loi ou cette loi, si elle est adoptée, ira, je l'espère, devant le Conseil constitutionnel pour être censuré. Et puis nous, les avocats, nous déposerons des QPC et nous exercerons des recours en vue de faire sanctionner ce texte qui est manifestement anticonstitutionnel et contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés.
Un exemple encore dans les vidéos qui ont été tournées hier à Paris, on a vu un manifestant donner un violent coup de pied au visage d'un policier, je crois que c'était sur les Champs-Élysées ou aux abords des Champs-Élysées. Celui-là, si on lui interdit de manifester samedi prochain, ce serait liberticide?
Ah non, pas du tout, parce que l'infraction est commise, il va passer en comparution immédiate, en tout cas on va probablement l'interpeller, je ne sais pas, hein, je ne l'ai pas vu cette vidéo, mais voilà, une enquête préliminaire va être menée, il va être identifié, interpellé, il va passer devant des juges judiciaires qui pourront lui interdire de manifester dans le cadre d'une peine complémentaire. Et là, j'ai aucune difficulté. C'est au juge judiciaire de prononcer cette peine complémentaire.
Vous avez parlé plusieurs fois de, ou une fois au moins, en tout cas je vous ai lu, de populisme pénal. On y est, Marie Dauzé?
Oui, mais on y est, vous savez, depuis, en tout cas on progresse dans le populisme pénal, depuis que Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, s'est servi du droit et de la justice pour en faire un fait divers, pour en fait nous inviter tous à surfer sur l'émotion et à ne surtout jamais quitter ce registre émotionnel. Ça crée un moment du pire, à un moment donné, ça crée le pire. Le pire parce qu'on n'est plus dans la réflexion, on n'est plus dans la construction, on est uniquement dans le ressenti. Et effectivement, on ne réagit qu'avec le cœur, et le cœur est parfois très mauvais conseil.
Marie Dosé, avocate pénaliste au barreau de Paris. On marque une pause avant d'aborder un autre de vos dossiers, ce qu'on appelle les revenants, les détenus français du Kurdistan syrien.
Europe 1. Jusqu'à 10h, retrouvez Patrick Cohen avec C'est arrivé demain.
Pour les djihadistes français de l'État islamique détenus en Syrie, une cinquantaine d'adultes avec 70 à 80 enfants, le scénario du retour en France se précise, écrit le journal Le Monde aujourd'hui, qui parle d'une opération de rapatriement coordonnée internationalement. Maître Marie Dosé, même défi que précédemment, tenter d'expliquer à ceux qui pensent que ces djihadistes ne doivent pas revenir parce qu'ils ont choisi de combattre la France et que la France doit les laisser à leur sort, tenter de les convaincre qu'il faut les laisser revenir. Pourquoi ?
Mais parce que de leur rapatriement dépend notre sécurité. Enfin, il faut juste essayer de comprendre que c'est le raisonnement inverse.
C'est notre intérêt.
Mais bien sûr, moi je suis pas en train de vous dire que ces gens ne sont pas dangereux. Je ne les connais pas. En tout cas, elles m'ont désigné, mais je les ai jamais rencontrés.
Oui.
D'accord. Donc je
oui, y a des familles
pas.
En France qui vous ont
bien
demandé
sûr.
De défendre certaines femmes.
Et je ne vais pas vous expliquer que mes clientes n'ont jamais pris les armes, que ce sont des pauvres victimes de l'État islamique, qu'elles sont prises dans les mains d'une secte. C'est pas ça. Ce que je dis depuis 18 mois déjà, ce que nous disons quelques avocats à mes côtés, ce que nous expliquons, c'est que le Kurdistan syrien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc la justice du Kurdistan syrien n'existe pas. Ils ne peuvent pas les juger, ils n'ont jamais pu les juger. Et à partir de là...
C'est un territoire sans État,
c'est un territoire sans État, sans institution.
Sans administration et sans institution.
Exactement, c'est d'ailleurs une détention arbitraire, dans le sens sans droit ni titre, depuis 18 mois, 2 ans. À partir de là... Les Kurdes expliquent qu'ils ne sont pas là pour nourrir nos prisonniers, soigner les enfants et s'en occuper. Et ils nous appellent depuis 18 mois à les prendre en charge. Là, la France est acculée. Pourquoi ? Parce que les Kurdes ont un tout petit peu de difficultés avec les Turcs qui sont en train d'arriver et puis ont d'autres priorités que de gérer nos prisonniers et disent aux Français, on ouvre les grilles, ça suffit. Puisque vous ne les prenez pas en charge, eh bien nous ouvrons les portes des camps, il y aura dispersion. Et dispersion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces femmes, ces hommes, eh bien, vont peut-être rentrer en France illégalement, vont peut-être commettre des attentats dans des pays voisins, nous n'en savons rien. Mieux vaut tout sauf la dispersion. En France, elles sont judiciarisées. Chacun, chacune d'entre eux et d'entre elles ont un mandat d'arrêt international qui va être exécuté, vont passer par la case juge d'instruction, puis juge des libertés de la détention, et donc détention provisoire.
Même si ce sera une charge énorme, évidemment, pour l'appareil judiciaire, pénitentiaire.
Non, mais attendez, soyons clairs là. Pour l'instant, on est à 50 adultes, 70 600 détenus en France. 50 adultes. Même l'administration pénitentiaire, qui pleure à juste titre sur son sort, explique qu'il n'y a pas de difficulté pour les accueillir et les prendre en charge. 70-80 enfants, c'est deux classes. L'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis est tout à fait prête aussi à faire un travail extraordinaire avec les enfants, comme elle le fait d'ailleurs depuis 2012-2013. Donc, cessons de dire, mais comment va-t-on s'en sortir, enfin ?
Comprenez les craintes de l'opinion tout de même.
Non, enfin, je les comprends tout simplement parce qu'il n'y a pas eu d'œuvre de pédagogie de réaliser par ce gouvernement, qui a encore une fois préféré surfer sur l'émotion plutôt que d'expliquer. Il y a 18 mois, Emmanuel Macron, président de la République, aurait dû faire une conférence de presse en expliquant que ce retour était inéluctable, qu'on allait le préparer et que c'était important pour notre sécurité. Sauf qu'on a préféré se taire, raconter n'importe quoi quand une garde des Sceaux explique quand même qu'au Kurdistan syrien, aller se dérouler des opérations de jugement des autorités locales, enfin, c'est quand même scandaleux de la part d'un ancien membre du Conseil constitutionnel.
Oui, je crois qu'elle l'avait mis au conditionnel cette phrase. Mais est-ce que vous arrivez à communiquer, Maître Dosé, avec les femmes que vous êtes censées défendre, qui sont détenues aujourd'hui en Syrie ?
Non, mais c'est très très compliqué. C'est-à-dire que j'ai pu de temps en temps les avoir au téléphone, et encore très rarement parce que les Kurdes les empêchent d'appeler. Malgré tout, il y a des téléphones qui circulent. Je ne sais pas très bien qui j'ai de l'autre côté.
Ah, vous savez pas qui parle ?
Non, c'est compliqué. Je reçois des messages, souvent des messages de détresse. Le lien essentiel, il est avec les familles, avec les parents, avec les oncles, les tantes, avec maintenant aussi, notamment pour une ou deux orphelines, avec les oncles et les tantes ou les grands-parents de ces petites filles. Voilà. On est en dehors du cadre, là. moi je suis plus avocat dans les lignes du code de procédure pénale. C'est compliqué pour tout le monde. C'est aussi pour ça qu'il faut qu'elle soit judiciarisée. Quand je vous disais tout à l'heure que je ne les connais pas, défendre quelqu'un, ce n'est pas être désigné par quelqu'un. C'est le rencontrer au parloir, c'est mettre en œuvre une défense, c'est aussi parfois lui dire j'arrête. J'arrête parce qu'on n'y arrivera pas, vous n'avez pas confiance en moi et on n'est pas d'accord sur votre ligne de défense. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc, il est impératif pour tout le monde, pour que les psychologues, les psychiatres puissent travailler, pour que la défense puisse aussi savoir exactement qui elle a en face d'elle, que toutes ces personnes entrent et soient judiciarisées.
Est-ce que ces femmes savent ou est-ce qu'elles ont conscience qu'en rentrant en France, elles ont toutes les chances d'être séparées de leur enfant ou de leurs enfants ?
Alors, je peux vous assurer que, en tout cas, je m'attelle à leur expliquer et je passe mon temps à l'expliquer aussi aux familles qui n'ont qu'un souhait, c'est que les enfants rentrent et soient pris en charge dans la maison. Même si les enfants connaissent pas les grands-parents ou les oncles et tantes. Mais ça va pas se passer comme ça, non, pas dans un premier temps.
Ils seront confiés à l'aide sociale à l'enfance.
Et puis, il y aura, mais voilà, des visites médiatisées. Petit à petit, ils vont pouvoir réintégrer leur famille d'origine. Il va sûrement aussi y avoir des visites médiatisées en détention pour ne pas que ces enfants perdent contact avec la maman si elle est détenue. Vous imaginez bien que depuis 2 ans, 3 ans, c'est-à-dire la moitié de leur vie ou toute leur vie, ces enfants n'ont pour seul horizon que leur mère. Donc l'arrachement, il est terrible. Il y a 1 an et demi, j'ai demandé le rapatriement
de
ces enfants
seuls,
sans leur mère.
Oui.
Plus jamais. En tout cas, là, aujourd'hui, si elle me le demande, je le refuse. Parce que qui peut prendre sur soi un arrachement pareil après 2 ans, 1 an et demi, 2 ans de détention avec pour seul horizon la maman.
Et de conditionnement éventuel aussi dans ces camps-là. Est-ce que la déradicalisation, ça existe, Marie Dosé? Est-ce que vous y croyez? Est-ce que ça peut fonctionner? Est-ce que ça fonctionne quelque part en France?
Mes croyances ont peu d'intérêt, mais les preuves de mon quotidien professionnel. Il se trouve qu'il y a moins d'une semaine, j'étais à une audience qui concernait une jeune fille mineure complètement radicalisée, mais vraiment, qui a essayé de partir en Syrie à plusieurs reprises. Les parents s'en sortaient pas, les juges des enfants non plus. Et puis, elle a rencontré dans le cadre d'un programme formidable qui s'appelle RIV. Elle a rencontré, alors qu'elle était sous bracelet électronique, un référent cultuel qui a fait un travail extraordinaire avec elle. Et j'ai pu constater qu'effectivement, la déradicalisation, ça existe et ça peut fonctionner. Mais on ne déradicalise pas autre chose que la religion. Il faut que ces personnes rencontrent des référents cultuels, qu'il y ait un vrai débat, une contradiction qui leur est apportée sur des certitudes religieuses absolument délirantes.
Je change complètement de sujet, de dossier, maître Marie Dosé. Un mot sur ce titre du journal Le Parisien du 14 janvier, information qui a fait beaucoup moins de bruit que l'accusation initiale il y a un an. Le comédien Philippe Cobert, visé par une enquête pour viol, pourrait être blanchi. C'est vrai?
Alors, pourrait être, c'est le conditionnel. C'est vrai, je l'espère.
Vous le défendez?
Voilà, je le défends. Le procureur de la République de Créteil va rendre sa décision. Les médias sont plus informés que moi sur ce qui pourrait être décidé. Ce que je sais, juste, c'est que il va falloir à un moment donné cesser de médiatiser des plaintes, de simples plaintes. Qu'on médiatise une mise en examen, j'ai pas de difficulté. Une mise en examen, ce sont des juges d'instruction qui se prononcent à un moment donné sur des charges. Qu'on médiatise un classement sans suite ou une décision du parquet de poursuivre, j'ai pas de difficulté non plus. Mais qu'on médiatise, bonjour, je m'appelle Madame X, Gérard Depardieu ou Philippe Cobert m'a violé, ça n'est pas possible. Parce que c'est nécessairement une atteinte à la présomption d'innocence. Et que 10 mois plus tard, voyez-vous, on en est à le parquet pourrait peut-être. Oui, mais pendant 10 mois, que se passe-t-il? Les directeurs de théâtre, quelle est leur réaction? Bah oui, mais Monsieur Philippe Cobert, vous rendez compte, dans tous les journaux, ou en tout cas sur Internet, le Huffington Post, la victime, elle explique à quel point vous l'avez violée. Et si tout cela n'est pas vrai? Eh bien, vous savez, on est dans un pays, il n'y a pas de fumée sans feu, on ne retiendra que cette dénonciation.
Pardon, c'est ce qui s'est passé pour Denis Baupin?
Exactement, c'est ce qui s'est passé pour Denis Baupin, et finalement, ce procès qui est malgré tout une catastrophe pour...
Procès, je le rappelle, intenté par Denis Baupin, mais procès en diffamation contre les médias qui avaient... révéler l'existence de ces plaintes.
Quelle catastrophe. Cette personne, cette femme qui arrive à la barre en disant « Je voudrais remercier Monsieur Baupin et son conseil parce que grâce à eux, j'ai enfin pu avoir bénéficié d'un procès et j'ai pu exprimer judiciairement ce que j'ai vécu. » C'est l'arroseur arrosé, hein, ça c'est le droit de la presse et sa violence. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il suffit de prouver sa bonne foi pour eh bien que la partie civile se retrouve prévenue. C'est ce qui s'est passé dans ce procès-là. Voilà.
Un dernier mot, Marie Dosay, les avocats sont à l'affiche avec l'affaire Viguier portée à l'écran dans le film en ce moment. Une intime conviction où Olivier Gourmet endosse la robe d'Éric Dupond-Moretti, le même Dupond-Moretti qui raconte sa vie, son métier, ses souvenirs en ce moment sur les planches du théâtre de la Madeleine. Ça pourrait vous arriver un jour?
Jamais. De faire du théâtre, jouer, non jamais, mais j'ai beaucoup d'amitié et j'ai une vraie admiration comme tous les pénalistes pour Éric Dupond-Moretti que je connais très bien. Maintenant, j'ai toujours eu peur du mélange des genres, voilà. Je pense déjà que dans l'opinion publique, on est assez pris pour des comédiens pour ne pas jouer la comédie. C'est toujours compliqué d'expliquer aux justiciables que non, notre robe n'est pas un costume et que réellement on ne triche pas lorsqu'on défend quelqu'un, lorsqu'on plaide, on n'est pas dans la comédie. Alors si on explique dans un théâtre et sur scène notre métier, là, j'avoue que j'ai une difficulté.
Merci maître Marie Dosay, merci d'être venue sur Europe 1 ce matin.
Europe 1.